Merci Seigneur pour ce temps que nous venons de vivre avec ces formidables instruments vocaux. En tout cas, quand le cœur est là, finalement les instruments, on n'en a pas tellement besoin. Quand on loue le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre âme, il est là. Merci Damaris. En effet, ce matin, c'était un petit peu imprévu, des imprévus, mais le Seigneur est à l'œuvre aussi, même si l'ennemi parfois essaye de s'infiltrer dans quelques brèches. En tout cas, nous savons et nous connaissons que le Seigneur est avec nous, qu'il est en nous et qu'il comble toutes ces brèches. Et que rien ne pourra nous empêcher de le louer, rien ne pourra nous empêcher de le célébrer, et rien ne pourra nous empêcher de proclamer sa parole. Alléluia. Alors, la dernière fois, j'avais prêché sur la joie comme un fruit de l'esprit. Et en fait, la volonté, c'était de poursuivre sur ce thème. Je suis assez travaillé par ce thème du fruit de l'esprit, parce que ça nous parle du caractère de Jésus. J'avais reçu que le fruit de l'esprit, c'est Jésus lui-même. Ce caractère, parce que la Bible est dans Galates 5, 22, quand Paul parle du fruit de l'esprit, il parle d'un fruit au singulier. Il ne parle pas des fruits au pluriel, il parle d'un fruit au singulier avec plusieurs facettes. Et si tu veux bien, Damaris, s'afficher le verset, ce verset clé. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, en numéro un, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, c'est la bonté, c'est la bienveillance. C'est la foi, c'est la douceur, c'est la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Et ce fruit qui, comme dans le naturel, pousse, c'est pas par nos propres efforts. J'avais insisté là-dessus, et vraiment c'est quelque chose qui est, je pense, important, qu'on doit saisir, dont on doit avoir conscience. Le fruit de l'esprit, il pousse. Il démarre d'une un fruit, vous savez comment ça se passe dans le naturel, hein, et dans le spirituel, c'est Jésus, enfin Dieu, dans la parole, c'est frappant, hein, il utilise des choses du naturel pour expliquer des réalités spirituelles. Et un fruit est une graine au départ, et puis il y a un processus, il y a un processus de maturation pour amener les choses à maturité. Et un fruit à maturité qui va donner son plein potentiel. Et je crois que le désir du cœur de Dieu, c'est vraiment de faire grandir ce fruit en nous. Parce que le désir de son cœur, c'est qu'on grandisse, je crois, en nouveauté de vie. Qu'on grandisse avec cette vie nouvelle en Christ qui doit se manifester par l'acquisition de ce caractère de Christ qui est manifesté là dans ce verset. Le caractère de Christ en nous. Je crois profondément que le cœur de Dieu, c'est de nous faire saisir que le caractère du Fils doit être implanté en nous et manifesté. Pas seulement pour nous faire du bien, évidemment pour nous faire du bien. Je crois que quand on manifeste ces fruits-là, enfin ce fruit et ces différents caractères, ça nous fait du bien. Mais ça fait surtout de nous des témoins de ce qu'est le cœur de Dieu. Et en fait, dans la parole, il est parlé de ce fruit de l'esprit et il est parlé des dons de l'esprit. Et en fait, je me suis interrogé et je voulais faire un parallèle. Est-ce que fruit de l'esprit et don de l'esprit, c'est la même chose? Est-ce que c'est semblable? Et surtout, la question que je me suis posée et que je me pose continuellement, c'est quoi le désir de Dieu pour ma vie? Qu'est-ce qu'il veut que je pratique dans l'appel qu'il a mis sur ma vie, sur la vie de chacun d'entre nous? Est-ce qu'il y a une hiérarchie? Est-ce qu'il y a une priorité? Fruit, don. Et en regardant les Écritures, je pense que la réponse, elle semble assez claire. Dieu, il désire les deux. Il veut le fruit et il veut les dons. Mais cette question de la priorité, elle ne me quittait pas. Qu'est-ce que Dieu veut réellement? Et s'il fallait établir une priorité, quelle serait-elle? Je suis arrivé à la conclusion que le fruit de l'esprit est supérieur au don de l'esprit. Parce que le fruit de l'esprit, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il va révéler le caractère de Christ en nous. Les dons de l'esprit, évidemment, sont essentiels. Et ils vont révéler l'action de l'esprit à travers nous. Et ce n'est pas neutre. Les dons, ils vont manifester vraiment la puissance de Dieu à travers nous, alors que le fruit, il manifeste sa nature, la nature de Dieu à travers nous. Et je trouve que c'est encore plus excellent. Parce que je suis assez persuadé que Dieu ne cherche pas simplement des serviteurs puissants, mais je crois qu'il cherche avant tout des fils et des filles qui lui ressemblent. Des fils et des filles qui lui ressemblent. À travers ses caractères, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Et notons ici que le caractère numéro un de ce fruit, c'est amour. Dans la traduction grecque, c'est agapé. Et agapé, on connaît tous le sens, mais quand on va regarder un petit peu la définition et les différentes définitions qui s'attachent à ce mot, on a amour fraternel, on a affection, on a bonne volonté, et on a bienveillance. En fait, ce mot amour, ce mot agapé, c'est finalement un peu le mot valise, entre guillemets, mais le mot central qui entoure tous les autres caractères qui viennent se rattacher à l'amour. Et ce n'est pas toujours ce qu'on voit dans nos vies, dans le monde dans lequel on évolue, mais peut-être aussi dans nos milieux chrétiens. Et en fait, j'avais cette pensée, cette réflexion qu'on vit dans une génération qui est assez fascinée par le spectaculaire. Je ne sais pas si vous avez remarqué, une génération qui est très fascinée par le spectaculaire, très fascinée par les grandes assemblées où il y a des tas de choses prodigieuses qui se passent. Je vous avouerai que ça ne m'impressionne pas beaucoup. Alors je me suis dit, mais Seigneur, pourquoi est-ce que ça ne m'impressionne pas? Et pourquoi, même si aujourd'hui, ces chaises bleues, il y en a presque plus qui sont vides que pleines, ça réjouit mon cœur. Quand même. Amen. En fait, le monde, je crois, est attiré par tout ce qui brille, par tout ce qui fait spectacle. Et c'est vrai que dans le monde chrétien, c'est vrai aussi. Il y a beaucoup de contenu. On a accès à des tas de choses aujourd'hui. Hein. Vous avez tous YouTube, les réseaux, etc. On baigne tous plus ou moins là-dedans. J'ai envie de dire qu'il faudrait le faire avec modération. Mais il y a beaucoup de contenus qui mettent en avant des choses, en effet, qui sont spectaculaires, des miracles, des prophéties, des guérisons, des manifestations du Saint-Esprit. Et en consultant ça, on doit aussi discerner je crois, on est dans ces temps où on doit discerner ce qui réellement vient du Saint-Esprit ou pas. Et je crois que c'est biblique et je crois que c'est bon d'aimer et d'admirer les miracles, d'admirer et de rechercher les prophéties, de voir des guérisons, de voir des manifestations du Saint-Esprit. Et je prie que le Saint-Esprit puisse agir aussi, ici, parmi nous, et qu'il produise ces miracles, ces guérisons, qu'il produise des choses spectaculaires, parce que oui, c'est biblique, et oui, c'est bon. Mais il y a une première question qui demeure, et qui finalement me quittait pas vraiment, c'est ces versets qui disent que dans les derniers temps, il faudra discerner, discerner les loups des agneaux, discerner les vrais prophètes des faux prophètes, les vrais docteurs des faux docteurs. 2 Timothée 4, verset 3 nous dit par exemple, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère, remplis bien ton service. Soyons des serviteurs humbles de notre Seigneur. Marc 13, 22, là c'est Jésus qui parle. Et c'est drôle parce qu'on va afficher aussi Matthieu 24, 24, donc c'est deux auteurs différents, Marc pour l'un, Matthieu pour l'autre. Et regardez la similitude entre les deux. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les élus s'il était possible. Ça, c'est Marc. Et dans Matthieu, c'est une autre version, mais c'est presque mot pour mot la même chose. Car de prétendus messieurs, de prétendus prophètes surgiront, ils feront de grands prodiges et des signes miraculeux au point de tromper si c'était possible. Même ceux qui ont été choisis, même les élus, même nous, qui sommes les enfants de Dieu, renouvelés dans notre esprit, renouvelés dans notre intelligence. Alors on doit demander à Dieu de nous donner ce discernement pour pouvoir justement discerner, parce que l'ennemi, il est capable aussi de prodiger de miracles. Il en est capable. Et on doit se poser cette question du discernement de ces choses. Et ne pas nous laisser traiter peut-être d'hommes ou de femmes de peu de foi si on est confronté à des choses pour lesquelles on... Il y a quelque chose en nous qui dit non. Non. Parce qu'on ne voit pas le fruit. Peut-être qu'on ne voit pas le fruit. On voit un don se manifester, mais est-ce qu'on voit un fruit ? C'est cette question, moi, qui me quitte jamais. Qu'est-ce qui réjouit le plus le cœur de mon Père ? Est-ce que c'est un homme qui prophétise ou est-ce que c'est un homme qui aime ? Est-ce que c'est une femme qui parle toutes les langues ? Ou est-ce que c'est une femme qui est remplie de douceur ? Est-ce que c'est un chrétien qui est capable de déplacer des montagnes ? Ou est-ce que c'est un chrétien qui aime profondément servir et qui ressemble à Jésus? Alors les dons sont importants. Bien sûr que les dons sont importants. Il faut commencer par affirmer ça clairement. Les dons, ils viennent de Dieu. Ils doivent jamais être méprisés. Jamais. Paul dit d'ailleurs dans 1 Corinthiens 14, 1, « Recherchez la charité ou l'amour. » Aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. Donc les dons, ils sont donnés par Dieu. Ils sont donnés par Dieu pour édifier l'Église, pour manifester sa puissance, pour servir les autres, pour annoncer l'Évangile. Bien sûr qu'il ne faut pas les mépriser. Dans 1 Corinthiens 12, d'ailleurs, on retrouve toute cette liste de dons, la parole de sagesse, la parole de connaissance, la foi, les guérisons, les miracles, la prophétie, le discernement, les langues et l'interprétation des langues. Tous ces dons sont précieux. Jésus lui-même, bien sûr, a exercé dans la puissance du Saint-Esprit. On ne peut pas le nier. Les apôtres ont exercé dans la puissance du Saint-Esprit. L'Église primitive a exercé dans cette puissance. Aujourd'hui, on est, je pense, toujours appelé à exercer dans cette puissance. On doit continuer à vivre dans cette dimension. Puisqu'une Église sans don, finalement, c'est quoi ? C'est une Église qui est intellectuelle, qui devient un peu théorique. Et c'est un danger. Mais le danger, c'est peut-être de se fonder uniquement sur ces dons. Parce que les dons, ils ne prouvent pas, je crois, la maturité spirituelle en réalité. Et en fait, c'est ce qui m'a amené à ça, c'est la lecture de Corinthiens, où on avait cette église de Corinthe qui, en fait, débordait de dons. Elle débordait de dons. Et pourtant, elle était charnelle. Elle était charnelle parce qu'elle vivait dans les querelles, dans les divisions, dans un tas de vous connaissez ça, hein, d'impureté, etc., dans l'orgueil, l'immoralité, du désordre. Et puis, Paul leur dira même, vous n'êtes pas spirituel, mais vous êtes charnel. Et si tu peux afficher, Damaris, s'il te plaît, 1 Corinthiens 3.1. Pour moi, 1 Corinthiens 3, verset 1. Pour moi, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ, comme à des petits-enfants en Christ. Il fait la leçon à ses frères et sœurs de Corinthe, Paul. Ils avaient les dons, mais il manquait un truc. Il manquait le fruit. Les Corinthiens, ils avaient la puissance, mais ils n'avaient pas le caractère de Christ. Et là, Paul, il leur fait la leçon, et ce n'est pas une petite leçon. Ce n'est pas une petite leçon. Quand on lit Corinthiens, les reproches, ils sont nombreux. Mais comme cette église, elle était pourtant puissante. Mais on peut parler en langue, et puis on peut manquer d'amour, on peut prophétiser, et puis on peut manquer d'humilité, on peut prêcher, et puis peut-être manquer de patience. On peut guérir des malades, mais on peut manquer de douceur. Judas lui-même avait reçu le pouvoir de chasser les démons, hein, mais son cœur, il n'avait pas été transformé jusqu'au bout. Alors que le fruit, lui, je crois, il révèle vraiment la transformation intérieure. C'est pas le don qui révèle ça. C'est le fruit qui révèle la transformation intérieure à laquelle on est vraiment appelé. Parce que le fruit, c'est pas un truc qu'on fait. C'est pas quelque chose qu'on fait. Le fruit, c'est quelque chose qui pousse, c'est quelque chose qu'on devient. Le don, en réalité, c'est un cadeau, c'est une grâce que Dieu nous fait. C'est un cadeau, mais c'est une capacité. C'est quelque chose qu'on fait. Alors que le fruit, on n'y est pour rien. Le fruit de l'esprit, c'est un caractère. C'est un caractère. Le fruit vient nous transformer. Alors que le don, finalement, il peut apparaître instantanément. Peut se manifester, faire des choses merveilleuses. Mais le fruit, lui, il prend le temps de pousser lentement. Pour ça, je pense que Paul l'écrit au singulier, le fruit de l'esprit. Il ne dit pas les fruits, il dit le fruit. Parce qu'il s'agit d'une seule vie. C'est une seule vie et c'est la vie de Christ. La vie de Christ qui est en nous. Parce que quand Christ, quand Jésus vit en nous, Il y a ce caractère qui se manifeste. Il commence à apparaître. Il commence à apparaître. Comme un arbre qui porte naturellement son fruit, finalement, lorsque la sève, elle circule sans entrave, quand il y a un bon enracinement, un bon arrosage, il y a une vie qui est là, et il y a un arbre qui porte des bons fruits. Ça, c'est le naturel, et dans le spirituel, c'est la même chose. Parce que je crois que la volonté suprême de Dieu, c'est de nous rendre semblables à son Fils, c'est de nous rendre semblables à Christ. C'est ça le cœur du message. Je me suis demandé, est-ce que le but ultime du salut, c'est d'aller au ciel? Est-ce que c'est ça le but ultime du salut? Je me suis posé cette question et je me suis dit oui, mais pas seulement. Est-ce que le but de Dieu, c'est, ou le but, ou en tout cas là, ce qu'on doit vivre, c'est de recevoir des dons? Oui, trois fois oui. Je ne voudrais pas sortir de ce message avec l'idée que je méprise les dons. Vraiment, je vous l'affirme, les dons sont importants. Mais pas seulement. Est-ce que c'est faire des miracles? Oui, mais pas seulement. Paul répond d'ailleurs dans Romains 8, 29. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Je crois profondément que le but du salut, il est là. Il est qu'en fait, nous qui avons été connus d'avance, nous qui avons été prédestinés à aller au ciel, à faire des miracles, à manifester des dons, on a aussi été prédestinés à être à l'image de son Fils, à être semblable à Jésus. C'est ça le cœur du Père. Parce que le Père, il recherche des hommes et des femmes qui portent l'image du Christ. Jésus, il est amour. Jésus, il est douceur. Jésus, il est humilité. Jésus, il est patience. Il est obéissance. Et c'est ça qu'il attend de nous. C'est le caractère de Jésus reproduit en chacun de nous, les croyants. En chacun de nous. Et quand j'ai repris 1 Corinthiens, c'était frappant. Parce que Paul, il distingue, il y a trois chapitres, de 1 Corinthiens 12 à 1 Corinthiens 14. Vous avez 1 Corinthiens 12 où Paul va parler des dons, la magnificence des dons, de la puissance des dons dans lesquels l'église de Corinthe opère. Dans 1 Corinthiens 14, il va reparler des dons à nouveau, notamment du don du parler en langue, il va faire tout un développement. Et il y a un chapitre 13 qui est au milieu, qui est au centre de ces deux-là. Et c'est assez remarquable. Je ne pense pas que ce soit un hasard. Chapitre 12, il parle des dons. Chapitre 14, il parle des dons. Et au milieu, vous avez le chapitre 13 qui parle d'amour, qui parle d'agapé, de cet amour fraternel, de cette affection, de cette bonne volonté, de cette bienveillance. Comme si Paul disait, finalement, il y a les dons, mais au centre, il y a le cœur. Au centre, il y a le cœur de Dieu. Ce cœur de Dieu qui vient rejaillir dans le cœur de l'homme. C'est merveilleux. Alors, c'est des versets qu'on utilise souvent pour des mariages, j'ai vu, mais pas que. Bien sûr que le mariage et la famille est importante, mais je crois que c'est beaucoup plus large que ça. Est-ce qu'on peut afficher le verset 1, s'il te plaît, Damaris? Si je parle les langues des hommes et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. Si je n'ai pas l'amour, Je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Si j'ai pas l'amour, tout le reste est vain. Puisque le verset 2 va nous dire « Et quand j'aurai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Je ne suis rien. » Quand j'ai lu ça, ça m'a choqué. C'est pas écrit « je suis moins spirituel » ou « je suis un moins bon chrétien ». C'est marqué « je ne suis rien ». C'est fort. Parce que je crois que la plus grande preuve de maturité spirituelle, finalement, en effet, c'est pas la puissance, c'est l'amour. C'est l'amour. Jésus, je crois, met les fruits au-dessus des manifestations. Jésus lui-même va déclarer à propos des faux prophètes, à propos de ceux qui viennent à nous, vous savez, avec des vêtements de brebis, qui viennent, mais qui sont au-dedans des loups ravisseurs, il disait ça dans un passage, et disait, vous les reconnaîtrez à leurs fruits, dans Matthieu 7,16. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Il ne disait pas, vous les reconnaîtrez à leurs miracles, mais il disait, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Et d'ailleurs, dans Matthieu 7, 22-23, alors que les apôtres, tout fiers de leur ministère de puissance, avaient été venus vers Jésus, et ils disaient, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom ? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom ? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom ? Et Jésus leur dira ouvertement, je ne vous ai jamais connu. C'est comme le « je ne suis rien » de tout à l'heure. Je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. Vous qui commettez l'iniquité. Donc ils avaient la manifestation, ils avaient la puissance, mais ils n'avaient pas encore la relation. Ils avaient les œuvres, pratiquaient les œuvres, mais ils n'avaient pas encore la ressemblance. Moi, franchement, c'est une parole qui me remplit d'humilité. Franchement, à quoi bon se projeter en stratégie, en actions diverses et variées si c'est pour me faire entendre dire à la fin « je ne t'ai jamais connu » parce que tu n'avais pas l'amour, parce que tu n'avais pas le caractère. Et ça recoupe un peu avec le début de mon propos, parce que le monde chrétien, c'est vrai, il regorge de super chantres, de super prédicateurs, de super prophètes, de super apôtres, de super évangélistes, des super docteurs. Et c'est des gens qui cultivent une certaine célébrité. Et c'est vrai qu'on baigne aussi là-dedans, parce qu'on a des ressources aujourd'hui qui nous permettent d'avoir accès à ça. Mais est-ce que le monde qui regorge de ces gens, de ces frères et sœurs, il regorge aussi de chrétiens qui sont aimants, qui sont patients, qui sont joyeux, qui sont bienveillants, qui sont doux, qui sont fidèles, qui sont maîtres d'eux ? La maîtrise de soi ? Moi, je crois que les fruits sont éternels. Et je crois que les dons, ils sont temporaires. C'est vrai. Quand on sera au ciel, on n'aura plus besoin de prophétie, on n'aura plus vraiment besoin de guérison, on n'aura plus vraiment besoin de ces choses-là. Par contre, l'amour, bah, lui, continuera. Lui va continuer. La joie continuera. La paix continuera. Le fruit, il appartient déjà à l'éternité. Mais les dons, ils appartiennent quand même au temps présent. Et tant qu'on est là, eh ben, il faut quand même les manifester. Parce que je crois que Dieu veut des croyants équilibrés. Il veut des croyants qui soient équilibrés. Il ne faut pas tomber dans l'excès inverse. Hein. Vraiment. Hein. Parce que certains pourront peut-être dire, bah, moi je veux que le fruit finalement, je veux être bon en tout temps. Et puis finalement, je vais faire le bien autour de moi, je vais être dans une association humanitaire. Et puis il y en a plein hein, qui manifestent un semblant de fruit de l'esprit dans le monde, on en connaît tous. Mais c'est qu'un semblant. C'est pour ça qu'il faut les deux et c'est pour ça qu'il faut être équilibré. Dieu, il veut aussi les dons. Jésus, il possédait les deux. Quand il était sur terre, les apôtres possédaient les deux aussi. L'église primitive possédait les deux. Le problème, c'est pas d'avoir les dons. Le problème, c'est d'avoir les dons sans le caractère. C'est ça le danger. C'est ça le problème. L'idéal biblique, c'est la puissance de l'esprit et le caractère de Christ. C'est ce à quoi on doit vraiment aspirer. Je veux d'ailleurs, on disait tout à l'heure, hein, aspirer aux dons les meilleurs, c'est une parole qui est forte. Le Seigneur nous demande d'aspirer aux dons les meilleurs. Et il y a cette image que j'ai trouvée qui était assez parlante pour désigner le caractère, finalement, le fruit et la puissance, c'est l'image du fleuve et des berges. On peut imaginer un fleuve comme ça qui est puissant et qui dévale et qui amène vraiment quelque chose de fort. Et puis on a les berges qui contiennent cette puissance. Ben les berges, c'est un peu comme l'amour. C'est ça le fruit. C'est la puissance. Mais dans le contrôle, parce que s'il n'y a pas les berges pour retenir le fleuve, la puissance, elle peut tout détruire autour. C'est ça l'équilibre. Il faut avoir... Je pense que Dieu veut les deux. Il veut la puissance, il veut la maîtrise. Il veut l'onction, mais il veut aussi la sainteté. Il veut le feu, et il veut aussi le caractère. Il veut les deux. Après, Philippe, t'es bien gentil avec toutes tes théories, là, mais comment on développe le fruit? Parce que finalement, si c'est pas quelque chose que je peux acquérir par mes propres forces, comment je fais? Comment il apparaît, le fruit? Comment il grandit? Comment il devient mûr en moi? Et une fois qu'il est mûr, on peut imaginer une orange, quand je le presse, ce jus, comment il rejaillit? Jésus nous donne la réponse dans Jean 15, 4. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. C'est assez simple finalement, le fruit il vient d'une communion. Il vient d'une communion avec notre Seigneur, d'une communion avec le Christ ressuscité. Plus on contemple le Christ, et plus on devient comme lui. Plus on le contemple, plus on est dans sa présence, plus on est dans la prière, plus on est dans la parole. Et dans ce... C'est Magda qui nous disait ça, dans ce Dieu, on le trouve dans ce murmure doux et léger. Pas forcément dans la puissance, l'excitation et toutes ces choses qui parfois nous emballent. Mais dans la paix, c'est le deuxième fruit, enfin le deuxième caractère, l'amour, la paix, la joie. Dans cette paix. mais aussi par les épreuves. Comment est-ce qu'on acquiert le caractère de Christ ? Aussi par les épreuves, parce qu'on ne peut pas les nier. On a tous et toutes des épreuves dans la vie. Mais Dieu utilise toutes ces choses pour former Christ en nous. Et c'est là où parfois le bât blesse. Parce qu'il faut faire attention à notre témoignage quand on traverse des épreuves. Parfois, on a cette tendance à être découragé et à... Alors qu'il ne faut pas aller et se laisser aller à ce découragement. Je crois que profondément, quand on a des épreuves et qu'on arrive malgré tout à manifester le fruit de l'esprit et à manifester ces merveilleuses caractéristiques, eh bien, on va montrer au monde que celui qui vit en nous, il a vaincu le monde. On va le montrer. Un chrétien dans l'épreuve, c'est un chrétien qui doit être en paix et qui cultive la joie. C'est un chrétien de bonne volonté. Dans Jean 16, 33, Jésus encore nous parle et il nous dit « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez à souffrir dans le monde, mais prenez courage, moi j'ai vaincu le monde. » Là, il annonce des tribulations, Jésus. Il annonce des choses pas très sympathiques qui vont arriver à ses disciples et aux apôtres plus tard. Mais il nous dit, sois en paix, malgré ces tribulations. Prends courage. J'ai vaincu le monde. Alors, pour conclure, j'avais... cette question, toujours cette question du ciel comme ça que je me pose à chaque instant, en imaginant qu'un jour j'arrive devant le Seigneur et puis je me pose la question et qu'est-ce qu'il va me demander ? Je me dis, mais combien de prophéties t'as donné, Philippe ? Non, je pense pas, hein. Il va me demander, est-ce que tu as beaucoup parlé en langue ? Est-ce que tu as guéri beaucoup de malades ? Vous en avez d'autres des questions comme ça qu'il pourrait me poser ? Je ne pense pas qu'il me la poserait en fait. Je crois qu'il me demanderait quelque chose de plus profond. Est-ce que tu as aimé ? Je crois qu'il me demanderait est-ce que tu as laissé mon esprit qui est en toi te transformer à l'image de mon fils. Parce que je crois que c'est ça que j'ai appris. C'est ça qui m'a vraiment que j'ai reçu comme révélation. Est-ce que tu as laissé mon esprit te transformer à l'image de mon fils ? Parce que le Père, il cherche des fils qui ressemblent à Jésus, bien évidemment. Les dons sont merveilleux, les miracles, ils sont nécessaires, la puissance, elle est indispensable. Mais la volonté suprême de Dieu, c'est que Christ soit formé en nous. Paul le dira, même d'ailleurs dans Galates 4, 19, il disait, mais mes enfants pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Ça, c'est un formidable projet. C'est un formidable projet parce qu'on est tous en chemin. On est tous sur ce chemin de maturité. Évidemment, on a tous quelque chose à travailler sur, mais Galates 5, 22, on a tous, parmi ces caractères, peut-être un caractère avec lequel on est en difficulté. Est-ce que je manque de paix ? Est-ce que je manque de joie ? Est-ce que je manque de bienveillance ? Est-ce que je manque de maîtrise de moi ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui n'est pas complet, qui n'est pas dans cette plénitude que Dieu veut pour nous ? Je crois qu'on a tous à réfléchir à ça et à demander au Seigneur de nous aider. Ce serait un peu ma prière finale, finalement, c'est de dire, Seigneur, oui, nous aspirons aux dons les meilleurs, Seigneur. Nous aspirons, Seigneur, à ce que ton nom soit magnifié, Seigneur. Nous aspirons à ce que ton esprit qui est en nous, qui vit en nous, Seigneur, nous aspirons à ce qu'il se manifeste aussi vers l'extérieur. À ce qu'il produise, Seigneur, des miracles, à ce qu'il produise des guérisons, à ce qu'il produise des choses formidables, Seigneur, pour glorifier ton saint nom. Mais Seigneur, je veux surtout te prier pour que tu viennes encore aujourd'hui travailler mon caractère. Pour que tu viennes encore aujourd'hui, Seigneur, travailler ce fruit, Seigneur, que tu veux faire grandir en moi, que tu veux faire mûrir en moi. Seigneur, si je manque d'amour, Seigneur, montre-moi. Montre-moi vers quelle personne, Seigneur, j'ai manqué d'amour. Vers quel Seigneur, quelle personne j'ai manqué de patience. Vers quelle personne, Seigneur, j'ai manqué de maîtrise de moi. Et Seigneur, donne-moi la force de demander pardon. Seigneur, toi, tu as fait une œuvre à la croix qui est une œuvre formidable de rédemption, Seigneur. Une œuvre formidable de rédemption. Tu m'as pardonné de tous mes péchés. Seigneur, par ton sang, Seigneur, je suis lavé de tous mes péchés. J'ai été pardonné gratuitement, gracieusement. Alors donne-moi, Seigneur, aujourd'hui, de pardonner aussi et de manifester ce fruit, de manifester cette bonté, de manifester cette patience, de manifester cette bienveillance, de manifester cet amour, cette douceur. Seigneur, aide-moi. Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin, Seigneur, que tu fasses grandir, Seigneur, ces caractères. J'ai besoin, Seigneur, d'être plus présent à ta présence. J'ai besoin de plus de temps pour être dans ta présence, dans la prière, dans la parole. Donne-moi, Seigneur, de me nourrir de ta parole. Seigneur, que tu puisses croître en moi. Que tu puisses croître en moi, qu'il n'y ait aucune zone vide. Que toutes les zones vides, Seigneur, tu viens les remplir. Tu viens les remplir. Oh Seigneur. Ta ressemblance. Je veux être à ta ressemblance. Et je veux, Seigneur, que dans ce caractère que je vais manifester petit à petit, Seigneur, il y ait des questions. Qu'on vienne, Seigneur, à moi et qu'on vienne me dire, c'est quoi ? Qu'est-ce qui vit en toi ? Qu'est-ce qui fait que tu es toujours en paix ? Qu'est-ce qui fait que tu es toujours en joie ? Qu'est-ce qui fait que tu es toujours à aimer les gens ? Pourquoi tu es comme ça alors que le monde, il n'est pas comme ça ? Le monde, c'est la bataille, c'est le challenge, c'est la performance, c'est le stress. Mais toi, même dans les épreuves, même quand tu es malade, même quand tu as une grosse épreuve à la maison, tu es en paix. T'es tranquille, t'es dans la joie, t'es dans la paix. Qu'est-ce qui vit en toi ? Qu'est-ce qui fait ça ? Et Seigneur, que ce soit un témoignage pour que j'ouvre ma bouche et que je parle de toi. Seigneur, il y a un esprit de révélation qui doit venir dans cette nation, dans ce monde. Un esprit de réveil qui doit venir. Et tu veux qu'on soit co-ouvrier, Seigneur, avec toi. Tu veux qu'on vienne, Seigneur. être ses co-ouvriers, être ses partenaires avec toi. Parce que nous portons Christ en nous. Nous sommes des chrétiens, nous sommes des petits Christ. Jésus vit en nous. Alors Seigneur, manifeste. Manifeste-toi. Et que Seigneur, nous puissions vraiment rayonner de ces caractères qui est le fruit de l'Esprit. Que nous puissions rayonner. Que nous puissions rayonner. Et que la révélation vienne. Et que la révélation vienne. Et que la révélation vienne. Et que Seigneur, tu sois glorifié. À toi soit toute la gloire. Seigneur, je ne suis qu'un petit serviteur. Mais en toi, je vis. Et toi, tu vis en moi. Et ta puissance, Seigneur. Cet esprit, Seigneur, cet esprit qui s'est révélé au monde, cet esprit, Seigneur, qui a créé le monde, je veux avoir conscience qu'il vit en moi et que je puis tout par celui qui me fortifie. Je peux tout par celui qui me fortifie. Tu es ma force, tu es ma paix, tu es ma joie. Seigneur, tu es l'amour que je porte en moi. Et tu es cet amour que je vais amener, que je vais amener dès demain, là où tu m'amèneras, Seigneur, à porter ta vie. Là où, Seigneur, mes pas vont fouler une terre païenne, une terre incrédule. Eh bien, Seigneur, cette terre, elle t'appartient. Et je suis ton ambassadeur. Et je suis ton représentant. Et Seigneur, je veux que le monde sache que tu règnes. Malgré les moqueries, malgré l'incrédulité, malgré les épreuves peut-être auxquelles je serai confronté, parce que j'aurais magnifié ton nom, parce que je l'aurais glorifié, je l'aurais élevé. Eh bien, Seigneur, donne-moi la force d'avoir les pieds fermes. Donne-moi la force de garder position et de dire, Seigneur, Seigneur, tu règnes. 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 Tu règnes. Il n'y a rien qui soit trop élevé pour toi. Rien. Tu règnes. Même dans cette France, tout le monde dit qu'elle est perdue. Il n'y a rien de perdu pour toi, Seigneur. Il n'y a rien de perdu, Seigneur. Alors soyons ces enfants qui se lèvent et qui portent le fruit de ton amour, qui portent le fruit de ta bonté, qui portent le fruit de ta bienveillance, qui portent le fruit du caractère de Jésus. Et Seigneur, que nous soyons ceux qui montrent au monde que oui, tu règnes. N'attendons pas des manifestations extraordinaires, Seigneur, même si tu dois venir. Et même si tu dois enlever ton église, Seigneur, nous avons notre part à faire dès aujourd'hui. Nous avons notre part à faire. Et tu règnes à travers nous. Dans le nom de Jésus.